Bonjour, au micro Idrissa Sebulia, Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Au Mali, le président de la transition, Barnaou, et son premier ministre, Mokhtar Ouane, ont démissionné après leur arrestation lundi par les militaires. Selon Baba Cissé, conseiller du colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition et homme fort du pouvoir malien, les personnes détenues vont recouvrer leur liberté de façon graduelle pour des raisons sécuritaires. Nous y reviendrons avec notre correspondant sur place, Mohamed Danioko. Les États-Unis ont pour leur part suspendu leur assistance aux forces de sécurité et de défense maliennes. Selon le département d'État, Washington étudierait des mesures ciblées contre les responsables politiques et militaires qui ont entravé la transition civile vers une gouvernance démocratique. De son côté, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a prévenu d'éventuelles sanctions si les efforts de médiation n'aboutissent pas. Les pays européens sont également prêts à des sanctions, a dit son président Emmanuel Macron. Et la CEDEAO ne les écarte pas non plus. Le Conseil de sécurité de l'ONU a, lui, condamné à l'unanimité l'éviction de messieurs Barnaou et Mokhtar Ouane et réclamé la libération immédiate des représentants actuellement détenus par des membres des forces de sécurité et de l'armée, jugeant inacceptable le fait d'imposer un changement de direction de la transition par la force, y compris par des démissions forcées. Selon des diplomates, le Conseil a également exhorté les éléments de ces mêmes forces à retourner sans délai dans leurs casernes. Les autorités de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont ordonné ce matin l'évacuation d'une partie de la ville du fait des risques d'éruption du volcan Nyiragongo, provoquant immédiatement l'exode de dizaines de milliers de personnes. Selon un correspondant de l'AFP, on ne peut actuellement pas exclure une éruption à terre ou sous le lac Kivu qui pourrait advenir sous très peu, voire sans aucun signe précurseur, a déclaré sur les médias locaux le gouverneur militaire, le général Constant Nima, qui a cité les noms de 10 quartiers de la ville. Il y a aussi risque de déstabilisation des gaz dangereux sous le lac. L'annonce du gouverneur a été suivie du départ immédiat de dizaines de milliers de personnes vers le sud-ouest en direction de la région congolaise du Masisi et la frontière rwandaise toute proche. À noter que des dégâts ont été également signalés dans la ville frontalière de Gisenyi au Rwanda. Le Rwanda, où le président français Emmanuel Macron effectue ce jeudi une visite pour solder le lourd passif lié au génocide de 1994. Claire Morin-Gibourg fera le point. Au Nigeria, plus de 150 personnes sont portées disparues après le naufrage d'un bateau surchargé dans le nord-ouest du pays sur le fleuve Niger, ont annoncé hier les autorités locales, disant craindre qu'elles soient toutes noyées. Le président américain Joe Biden condamne des violations des droits humains inacceptables, notamment des violences sexuelles, dans la région éthiopienne du Tigré, et il a exhorté à un cessez-le-feu immédiat. Dans un communiqué, M. Biden a demandé hier le retrait des forces érythréennes et amharas du Tigré ainsi qu'un accès humanitaire immédiat pour éviter une famine généralisée dans cette zone. L'émissaire américain Jeffrey Feltman se rendra dans la région la semaine prochaine, a annoncé M. Biden. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a conclu mercredi en Jordanie, où il a rencontré le roi Abdallah II, une tournée au Moyen-Orient qui visait à consolider le cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Le président Joe Biden a appelé hier les services de renseignement américains à redoubler d'efforts pour expliquer l'origine du COVID-19, déplorant une nouvelle fois le manque de coopération et de transparence de Pékin. Ici aux États-Unis, un employé d'une entreprise de transport public a tué au moins 8 personnes mercredi sur le site de la compagnie à San José en Californie, a indiqué la police. Dernier exemple en date de la violence par arme à feu aux États-Unis. La suite de nos informations, retour sur le Mali après la démission du président de la transition Bandao et de son premier ministre Mokhtar Wane. Le commandant Baba Cissé, conseiller spécial du colonel Assimi Goïta, vice-président et homme fort du pouvoir malien, a donné un point de presse pour justifier les raisons qui ont entraîné la mise à l'écart des deux hommes. Compte rendu de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Alors que le gros lot des journalistes a passé toute la journée à faire le pied de grue dans un hôtel de la place pour guetter une déclaration de la médiation de la CEDEAO, une déclaration qui ne se fera pas, quelques-uns, en majorité des activistes, ont été invités au point de presse donné par le commandant Baba Cissé, conseiller spécial du vice-président, le colonel Assimi Goïta, pour donner les raisons qui ont amené ce dernier à mettre Bandao et Mokhtar Wane à l'écart. Le président Bandao est accusé d'avoir empêché des actions en justice. Commandant Baba Cissé.
Il faut aussi comprendre que le vice-président de la transition avait nourri l'ambition de faire l'audit de la loi d'orientation et de programmation militaire. Donc ça, cela s'est passé lors d'une séance du Conseil de défense. Il y a eu blocage à ce niveau. Un autre blocage était l'opposition du président, la transition à l'arrestation de certains dignitaires impliqués dans la mauvaise gestion financière et militaire du régime.
En ce qui concerne le Premier ministre, le vice-président lui reprocherait une gestion clanique du pouvoir et une trop grande implication dans les questions électorales.
On a constaté que la gestion de l'État par le Premier ministre était aussi assez problématique, car il a été constaté qu'il ne coordonnait pas assez et il n'a jamais tenu de séminaire gouvernemental. Et beaucoup se plaignaient d'une gestion clanique aussi du pouvoir par le Premier ministre. Et lequel Premier ministre aussi n'arrêtait pas de s'impliquer dans les questions électorales.
Suite aux nombreuses pressions, aussi bien au plan national qu'international, la libération des deux hommes a été acceptée par le vice-président, selon Baba Cissé.
Après la démission du président et du président de la transition et du Premier ministre, donc les personnes détenues vont recouvrer leur liberté. Mais cela se fera de façon graduelle pour des raisons de sécurité, des raisons évidentes de sécurité.
Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux, les Maliens, à se poser la question de l'opportunité d'une telle sortie, sachant que les mises en cause ne peuvent apporter de réponse à ces accusations. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président français Emmanuel Macron ce jeudi au Rwanda, avec l'ambition de normaliser des relations empoisonnées depuis plus d'un quart de siècle. Des détails avec Claire Morin-Gibault.
Ce voyage au pays des mille collines se tient dans un climat d'optimisme, aussi bien à Paris qu'à Kigali. Emmanuel Macron a affirmé la semaine dernière qu'il aura à cœur d'écrire une nouvelle page entre la France et le Rwanda. Pour le président Kagame, les deux pays ont désormais l'opportunité de créer une bonne relation. Emmanuel Macron se rendra directement au mémorial du génocide à Kigali. Selon l'Élysée, il va prononcer un discours s'adressant notamment aux rescapés du génocide qui a fait plus de 800 000 morts entre avril et juillet 1994. Certaines associations attendent que le président Macron exprime des excuses pour le rôle joué par Paris entre 1990 et 1994. Paul Kagame a estimé récemment que des excuses ne pouvaient pas venir à la demande. Elles doivent être sincères, a-t-il expliqué.
Un nouveau visage au podium de presse à la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, deviendra la deuxième femme noire à assumer ce rôle prestigieux. Le point avec Abdourahmane Dia.
Aujourd'hui est un grand jour à la Maison-Blanche, a tweeté Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche, qui cède temporairement sa place à son adjointe. Karine Jean-Pierre fera son premier point de presse depuis le pupitre et marquera l'histoire, a-t-elle ajouté. Née en Martinique de parents haïtiens, Karine Jean-Pierre est aussi la première femme ouvertement homosexuelle à se tenir devant les journalistes à la salle de presse de la Maison-Blanche. Figure du milieu associatif, la quadragénaire francophone a travaillé sur les deux campagnes de Barack Obama en 2008 et 2012, puis à celle de Joe Biden en 2020, avant de rejoindre son équipe à la Maison-Blanche. Elle a déjà fait des points de presse depuis Air Force One à l'occasion de déplacements présidentiels. L'apparition de Karine Jean-Pierre au pupitre prend un relief particulier car l'actuel titulaire du poste prestigieux de White House Press Secretary, Jen Psaki, a indiqué qu'elle entendait céder la place d'ici un an. Ce n'était pas arrivé depuis des décennies car la première femme noire à occuper ce poste a été Judy Smith sous la présidence de George Bush le père en 1991.
Et maintenant le sport avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Suite et fin des matchs des quarts de finale de la Basketball Africa League ce jeudi à Kigali au Rwanda, la mission s'annonce compliquée pour les Sénégalais de l'AS Douane repêchés comme meilleur troisième devant les Tunisiens de l'US Monastir. Juste après, les Mozambicains du Ferroviaire ou de Maputo feront face aux hôtes rwandais de Patriot. Le rappeur américain J. Cole, qui a rejoint l'équipe rwandaise dans le cadre de la balle, a quitté le Rwanda hier. Après avoir participé au tournoi, des sources disent qu'il ne s'est inscrit que pour jouer les trois premiers matchs de la phase de groupe. Analyse de ces deux rendez-vous du jour avec notre consultant en basketball, Eugène Pewa Pelema.
Les Douanes contre Monastir, ce match, le Monastir va lourdement favori, c'est 80% à 20%. Il va falloir que les Douanes jouent un match parfait pour venir à bout de Monastir, qui, à mon avis, est l'équipe numéro 1 de ce tournoi pour l'instant, car ils ont un jeu qui est fluide, ils ont un jeu qui est construit, les joueurs ne font pas beaucoup d'erreurs, et ils ont un banc fourni, où ils ont 10 joueurs qui peuvent jouer avec la même intensité pendant 4 ans. Et finalement, le quatrième match, qui va opposer Maputo, qui joue un basketball très construit, même si il est vrai qu'ils ne font pas trop de changements. Leur joueur titulaire joue en moyenne 36 à 37 minutes, ce qui est énorme. Et contre cette équipe des Patriots du Rwanda qui, d'une certaine manière, est un peu plus profonde et qui va jouer avec son public, on va avoir affaire à un match qui est très équilibré, avec un léger avantage aux Patriotes à cause du fait que leur banc est plus fourni.
Eugène Pewa Pelema, joint dans le Maryland, ici aux États-Unis, via Skype. La première affiche des demi-finales est connue. Elle opposera les Égyptiens du Zamalek aux Angolais de Petro de Luanda. En quart de finale hier, en effet, le Zamalek s'est largement imposé devant les Camerounais de FAP 82 à 53. À titre individuel, Walter Wallace Hodge du Zamalek enregistre 18 points et 6 passes décisives, tandis que Michael Olayinka Fakouade de FAP totalise 12 points et 8 rebonds. Amadou Abdoulaye Haruna compte 21 points et 7 rebonds pour les Camerounais. Avec cette victoire, les Égyptiens sont en demi-finale, tandis que la compétition s'arrête ici pour les Camerounais. Football, au bout du suspense, Villarreal a remporté sa première Ligue Europa en battant hier en finale Manchester United au tir au but, 11 tirs réussis contre 10 à Gdańsk en Pologne, offrant à son entraîneur Unai Emery un quatrième sacre dans cette épreuve. Alors que les deux équipes s'étaient neutralisées 1-1, Edinson Cavani à la 55e ayant répondu à Gérard Moreno à la 29e, la prolongation n'a rien donné et la séance des tirs au but a été irrespirable. Chaque tireur a réussi sa tentative jusqu'à l'échec final du gardien David De Gea. 11e tireur, Mancunier.
Merci, Yacouba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président français Emmanuel Macron, ce jeudi au Rwanda, avec l'ambition de normaliser enfin des relations bilatérales empoisonnées depuis plus d'un quart de siècle, par le rôle joué par la France lors du génocide des Tutsis en 1994. Bien que ce court déplacement au pays des Mille Collines s'ouvre dans un climat d'optimisme aussi bien à Paris qu'à Kigali, de nombreuses questions restent posées. Arzuma Compaoré a joint à Bruxelles la journaliste Colette Breckmann.
Le Rwanda, comme vous le savez, ne s'entend pas bien avec ses voisins. Il a des problèmes avec le Burundi, avec l'Ouganda, avec la Tanzanie, c'est pas terrible. Avec le Congo, ça reste malgré tout problématique, même s'il y a eu un accord avec le président Tshisekedi. Et que le Rwanda a envie d'être en bon terme avec un pays qui est tout de même membre du Conseil de sécurité. Et la France a toujours eu des rapports difficiles avec le Rwanda, et donc je pense qu'il y a un intérêt certainement du côté rwandais à calmer le jeu, à normaliser du côté de la France aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un ressentiment anti-français croissant en Afrique de l'Ouest, où on est au courant de ce qui s'est passé au Rwanda, on supporte mal l'influence de la France dans son précaré, et donc elle a aussi besoin de normaliser ses relations avec le Rwanda et de calmer le jeu pour rester ce qu'elle veut être, c'est-à-dire une puissance qui a une présence significative en Afrique.
Est-ce que vous pensez que ce sera une ouverture favorable et durable?
Moi, je pense personnellement que des questions se posent encore. Vérité qui a été menée en France par la commission Duclert, il est très bien, mais il n'a pas été poussé jusqu'au bout. Je vous pose quelques questions. Est-ce qu'on sait la vérité à propos de l'attentat qui a emporté la vie du président Habyarimana? Est-ce qu'on connaît tous les dessous de l'opération turquoise? Est-ce qu'on a mesuré l'impact de l'opération turquoise en RDC, la déstabilisation qui a été imprimée au pays voisin, le Congo, qui en souffre jusqu'aujourd'hui, 27 ans plus tard? Donc il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de questions qui restent en suspens, et je pense que la France devrait aller jusqu'au bout de son exercice de vérité et de soutien aux pays de la région qui ont connu les conséquences du génocide. Il y a encore beaucoup de sujets qui sont en suspens. Il y a encore pas mal de génocidaires, des auteurs de génocide direct qui se trouvent en France. La présence de la veuve du président Habyarimana qui vit toujours en France près de Paris sans être autrement inquiété, pose toujours des questions au Rwanda. Et donc je pense que le chantier est loin d'être clôturé.
Colette Breckmann, journaliste et spécialiste de la région des Grands Lacs.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'éruption soudaine du Nyiragongo et la gestion des catastrophes naturelles en Afrique. Après un sommet de près de 20 ans, le volcan qui surplombe l'agglomération de Goma et le lac Kivu a craché sa lave sur la ville et provoqué plusieurs secousses sismiques causant des morts, d'importants dégâts matériels et une énorme psychose auprès de la population. Cette éruption du volcan Nyiragongo était-elle prévisible? Les gouvernements en Afrique consacrent-ils assez de moyens à la surveillance, la prévention et la gestion des catastrophes? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com.
Au Sénégal, comme un peu partout dans le monde, beaucoup d'employeurs ont opté pour le télétravail ou le chômage technique depuis plusieurs mois afin de s'adapter à la pandémie. Voilà pourquoi certains travailleurs se demandent si l'on doit continuer cette pratique. Quels sont les avantages du télétravail et du chômage technique pour l'employeur et l'employé? Quels en sont les inconvénients? Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
Le télétravail, une pratique vieille de quelques années et qui commence à se faire un peu partout dans le monde, notamment au Sénégal. Le prétexte, la pandémie de COVID-19 qui impose ses lois, avec la création de vaccins qui suscite une lueur d'espoir, peut-on pérenniser cette pratique? Présente-t-elle des avantages? Alune Barry, gérant d'une plateforme informatique, cite les avantages.
Avec le télétravail, nous enregistrons moins de charges telles que la facture d'eau ou encore d'électricité. Leurs coûts ont beaucoup diminué. Dans notre entreprise, nous avons une plateforme digitale gérée par les informaticiens. Ces gens-là peuvent travailler à distance. Avec une bonne connexion et leur ordinateur, ils accomplissent leurs tâches chez eux. D'autres agents qui s'occupent de la maintenance et de la sécurité du réseau n'ont pas besoin de faire tout le temps du travail en présentiel.
Ils n'ont pas besoin d'être en présentiel.
Après les employeurs, place aux employés. Ousmane est magasinier dans une grande société de la place.
Quand on est en télétravail, ils te mettent dans des dispositions comme si on était en présentiel. Et c'est très avantageux pour nous, car on n'a plus à supporter les frais de transport. Nous avons juste besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Par contre, parfois la connexion pose problème. Le coût est cher. De plus, dans certaines zones, la couverture est faible.
Sur le plan juridique, le Sénégal ne dispose pas encore de cadre réglementaire pour une meilleure organisation du télétravail. Karim Sy, directeur général du travail et de la sécurité sociale, apporte des éclairages.
Notre code du travail ne prévoit pas encore le télétravail de manière expresse. Donc, ce qui veut dire que du point de vue juridique, le télétravail n'a pas encore un cadre légal. Ça ne devrait absolument pas poser problème qu'en raison du danger que constitue le COVID-19, qu'il y ait des aménagements spécifiques, des mesures particulières, malgré l'absence du cadre juridique.
Alors, qu'en est-il de la législation du télétravail au Sénégal ? Voici la réponse d'Abdoul Alfadja, consultant en RH, secrétaire général de l'Association des professionnels en ressources humaines.
C'est quel encadrement juridique il faut apporter au télétravail pour qu'il puisse être mis en place, non pas seulement en termes de réaction par rapport à une crise, mais également en termes d'opportunités. Parce que le télétravail est aussi une source d'opportunités. Aujourd'hui, avec les formules de télétravail, vous pouvez recruter des personnes qui étaient handicapées, qui ne pouvaient pas peut-être se mouvoir au sein de l'entreprise. Dans le cas du genre, aujourd'hui, on sait que les femmes qui ont accouché, au bout de 2 mois, elles sont obligées de reprendre le travail. Pourquoi ne pas imaginer, donner la possibilité aux femmes, après leur accouchement et leur congé de maternité, de pouvoir encore continuer à travailler de chez elles. L'OMS recommande qu'un enfant nouveau-né doit être allaité au moins 6 mois.
Pour certains, les premiers signes du télétravail sont apparus en 1950, au moment où l'architecte Norbert Wiener supervise depuis l'Europe la construction d'un bâtiment aux États-Unis en utilisant des moyens de transmission de données pour suivre l'avancée des travaux. Aujourd'hui, presque tous les secteurs professionnels bénéficient du télétravail, mais beaucoup de pays tardent à lui trouver un cadre juridique. Seydina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
De nombreux pays africains ont utilisé la pandémie de COVID-19 comme prétexte pour réprimer les droits civiques suscitant des manifestations à travers le continent. Le rapport sur l'état de la société civile 2021, publié par Civicus, l'Alliance mondiale de la société civile, décrit comment les mobilisations menées par les jeunes et les femmes ont balayé l'Afrique en 2020 et 2021. Pour des explications, Jean-Roger Bion a joint Inès Poussadella, chercheur à Civicus et co-auteur du rapport.
Une des choses dans le cas de l'Afrique, c'est la situation de la démocratie, les élections, et comment beaucoup de gouvernements ont profité de la pandémie pour changer les règles de jeu, pour se bénéficier, pour se consolider le pouvoir. Une des tendances qu'on a vues, c'est la répression constante de l'espace civique pour l'avenir. On pense qu'une des sphères plus prioritaires d'action de la société civile doit être faire face aux tactiques de restriction que les gouvernements ont mises en place. Quelquefois, c'est la censure, la surveillance, les lois sur les désinformations, la répression des manifestations. La société civile doit améliorer ses capacités de communication, de sensibilisation, de coopération, parce que ça, c'est une aire prioritaire pour le travail.
Est-ce qu'on pourra repartir pour la démocratie sur un bon pied, vu que le tableau est sombre? Est-ce que ça peut changer?
Alors, il y a des pays qui n'ont pas obtenu une démocratie, mais il y a d'autres qui avaient des démocraties, mais ils sont en train de la perdre. Il y a beaucoup d'États, des gouvernements qui rejettent les normes de la gestion de la politique démocratique. Alors ça, c'est une autre ère prioritaire de l'action de la société civile. La question, c'est bien sûr comment la société civile peut-elle coopérer avec les dirigeants pour supérer la polarisation et pour promouvoir les droits civiques, les droits à la participation, les droits à l'élection libre de représentants du gouvernement. Alors, ça, c'est de faire d'action de la société civile, mais il y a beaucoup d'autres, en fait, parce que, par exemple, on espérait que les 2020 serait l'année du climat, parce qu'après les grandes mobilisations de 2019, on pensait que c'était l'année où les choses allaient changer. Et ça n'a pas passé, c'était la pandémie, c'était pas le... Alors c'est très important.
Inès Poussadella, chercheur à Civicus, Alliance mondiale de la société civile, est co-auteur d'un rapport sur la société civile.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Dans le cadre de notre série sur le basketball africain, à l'occasion de la première édition de la Basketball Africa League qui se tient actuellement au Rwanda, aujourd'hui le Togo. Avec notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Considéré au Togo comme la deuxième discipline la plus pratiquée après le football, le basketball intéresse toujours les jeunes, affirme la Fédération togolaise de basketball. Mais les moyens font défaut à l'instance qui dirige le basketball togolais pour organiser des compétitions. Bivaina Gungu, président de la Fédération togolaise de basketball.
Le basketball attire beaucoup la jeunesse chez nous. On sent la motivation, on sent l'engagement, on sent le dévouement des jeunes. Mais chez nous au Togo, pour l'instant, nous n'avons pas encore une salle. C'est ce qui nous limite un peu dans le choix des compétitions à abriter. Quand on doit organiser une compétition, ce n'est jamais facile. Mais nous arrivons à organiser quelques-unes.
Le basketball pourrait susciter plus de vocations si certaines conditions sont réunies, estime Ginette Bayadekambi, ancienne capitaine de l'équipe féminine de basketball du Togo.
Notre basketball, comme les autres sports de main, se voit encore plus négligé. Je dirais également que les championnats scolaires qui ont été suspendus ne favorisent pas cette vocation. Alors que nous, nous sommes arrivés au basket par ce championnat scolaire-là.
Compte tenu de la morosité actuelle du basketball togolais, Eric Johnson, joueur de l'étoile filante de Lomé, ne mise pas que sur la balle orange.
Ici, nous avons un petit problème avec les sports de main. Donc moi, j'ai préféré continuer mes études à côté. J'ai essayé d'avoir tous mes diplômes et de jouer aussi au basket. Si l'opportunité de basket se présente, pourquoi pas? Si l'opportunité des diplômes se présente aussi, pourquoi pas? Il faut vraiment avoir une possibilité parce qu'on n'a pas du tout d'opportunité ici. Si le basket marche, bravo. Si le basket ne marche pas aussi, c'est pas la fin du monde.
Faute d'une réelle académie de basketball dans le pays, des centres encadrent de jeunes et enfants désireux de pratiquer le basketball. Ginette Adekambi encadre des enfants dès l'âge de 3 ans. Elle insiste sur la nécessité de commencer très tôt.
Le basket, au-delà d'être un simple sport, c'est tout un art. Et la perfection vient au fil des années. Et pour détecter ces temps-là, il faudrait commencer tôt afin de produire de futures légendes. J'ai commencé le basket quand j'étais déjà au lycée. Donc, si j'ai pu, après 3 années, intégrer l'équipe nationale, je me dis que si j'avais commencé plus tôt, peut-être que je pourrais embrasser une carrière sportive internationale.
Mettre en place des pépinières coïncide avec l'ambition de la Fédération togolaise de basketball qui veut porter haut le basket togolais et pourquoi pas participer prochainement à la Basketball African League. Nous retrouvons le président de la fédération, Bivaina Gungu.
Notre ambition, c'est de pouvoir amener les équipes au plus haut niveau possible, que nos joueurs et nos joueuses puissent s'adapter et de pouvoir commencer par sortir, se mesurer aux autres nations et aux autres clubs des autres pays.
Une ambition pour être réalisée doit être accompagnée de divers moyens. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sédoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.